Bien, alors on va démarrer la deuxième séance de deuxième communication de ce matin. Oui, pour le temps, ça va, y a pas de problème. Anne Brunel, comme vous le savez sans doute, dirige le site internet de France Culture. France Culture, le site internet de France Culture fait partie des activités de la radio France Culture, qui elle-même fait partie du groupe Radio France. C'est sans doute la chaîne la plus intéressante pour beaucoup d'entre nous, pour entendre parler de littérature actuelle, ancienne, ou d'autres sujets bien entendu, dont elle va nous parler maintenant. Je suis très content qu'elle ait pu venir, parce que France Culture m'a sauvé de la déprime quand j'étais au Japon, et pas d'autres radios. Donc, publiquement, je dis merci à Anne pour tout ce qu'elle a fait, et elle va nous expliquer maintenant comment elle voit et envisage l'avenir.
Alors, j'avais annoncé comme titre cette intervention initialement quelque chose qui était du fonds d'archives à la bibliothèque sonore. Entre-temps, j'ai un peu modifié l'angle du propos pour être un peu plus proche de la réalité, puisque de fonds d'archives sur Internet encore, on ne peut pas vraiment parler de bibliothèque sonore, hélas pas encore, pour des questions d'indemnisation liées aux droits d'auteur, je vous expliquerai ultérieurement. Donc j'ai préféré l'intituler cette fois-ci « De l'éphémère radiophonie à l'archive multimédia ». Puisque comme Patrick vient de vous l'expliquer, bien sûr, ce site internet n'existe pas en lui-même. Il n'existerait pas sans la radio France Culture qui lui préexiste depuis des décennies. Et il n'a été que la transposition, la tentative de transposition multimédia de ce contenu au départ sonore et donc de flux totalement éphémère qu'est la radio France Culture. Alors, je commencerai par rappeler que au départ était la radiophonie littéraire francophone avec France Culture, puisque la radio publique française en est un peu la pionnière en proposant dès l'après-guerre au sein du club d'essai qu'ont co-dirigé Jean Tardieu et Pierre Schaeffer un véritable atelier d'écriture radiophonique et littéraire où ont été conviés les écrivains de l'époque tels André Gide, Raymond Queneau, Albert Camus, Jean Cocteau, aussi bien pour des lectures, des adaptations, des créations radiophoniques, mais aussi bien Louis Aragon, Marcel Arlan, Georges-Emmanuel Clancier, Paul Éluard, André Fresneau, Eugène Ionesco, Philippe Soupeau et tous ceux que je ne prendrai pas le temps de citer ici, mais dont les noms sont tous évidemment bien connus, tout comme très certainement pour une grande part d'entre vous, l'histoire même de France Culture ainsi que de ses origines. Puis, dès la naissance de la chaîne culturelle de cette radio de service public France Culture en tant que telle, l'une des missions est bien la promotion et la diffusion des œuvres littéraires françaises, ceci s'entendant aussi bien au sens patrimonial qu'au sens d'un soutien à la création. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre d'émissions à France Culture à travers les différentes formes que la chaîne France Culture a pu prendre depuis les quelques 40 ans que cette chaîne existe, de reviviscence du patrimoine littéraire à travers des émissions consacrées à des auteurs disparus, à ce que fut leur œuvre, mais aussi une sorte de travail de commande que France Culture peut avoir régulièrement, aujourd'hui encore, auprès d'auteurs contemporains à travers la commande d'œuvres écrites pour la radio. Donc des œuvres qui ne seront pas forcément publiées ou qui le seront peut-être ultérieurement sous une forme écrite, mais qui d'abord ont une forme d'écriture radiophonique. Donc c'est aussi, me semble-t-il, un travail littéraire, même si au départ c'est pour une production d'œuvres radiophoniques. Alors actuellement, dans ce que France Culture est à l'année, on peut retrouver en gros 5 types d'émissions que je qualifierais de littéraires. Peut-être aller dans la page des émissions. Là, émission. Des émissions qui vont accompagner l'actualité éditoriale, donc plutôt des émissions de on va descendre dans l'univers littérature, puisque l'ensemble des émissions de France Culture est loin d'être uniquement consacré à la littérature, mais essaye de couvrir tous les champs disciplinaires de la connaissance. Voilà, donc en littérature, on va trouver un assez grand nombre d'émissions. D'autres seront également à caractère littéraire, mais classés dans un autre champ disciplinaire que j'ai intitulé l'univers des idées, et encore un autre dans l'univers qu'on a intitulé création radiophonique, dans lequel précisément on trouvera ces formes d'écriture pour la radio, qui chez nous s'appelle de la création radiophonique, c'est-à-dire les écritures de fiction. Donc je disais 5 types d'émissions littéraires. D'abord des émissions d'actualité éditoriale qui sont quotidiennes, hebdomadaires ou occasionnelles. Alors les principales, c'est des émissions, celle du midi qui s'appelle Tout arrive, qui a remplacé une émission que beaucoup d'entre vous devaient connaître qui s'appelait Le Panorama Transculture, midi 30, 14h, aujourd'hui 13h, 14h. Bon, c'est des rendez-vous un peu obligé, historique de France Culture, qui donc consiste à accompagner l'actualité culturelle, qui plusieurs fois par semaine, évidemment, est de nature littéraire. Mais ce sera aussi le mercredi le cinéma, ce sera tel autre jour le théâtre, encore une forme d'écriture littéraire, bien sûr. Donc, pour vous expliquer, là, on ne va pas pouvoir écouter, puisque hier soir, je me suis chargée de remettre en ligne un certain nombre d'émissions qui font partie de notre grille annuelle de France Culture. La grille annuelle, c'est-à-dire celle qui s'échelonne entre le mois de septembre et la fin du mois de juillet, sachant qu'en ce moment, au mois d'août, nous sommes dans cette période particulière qu'est la grille d'été de France Culture. Autrement dit, toutes les émissions annuelles, comme celle-ci, Tout arrive, comme des émissions comme Poésie sur parole, comme un grand nombre des émissions littéraires, ne sont pas actuellement en ligne. Donc là, c'est un site un petit peu fait exprès que je vous propose pour pouvoir vous montrer toute la gamme des émissions littéraires qui, d'ordinaire, existent à France Culture. Le site étant l'écho de ce qu'est l'antenne de France Culture au moment T où on le consulte. Donc en ce moment, en principe, seulement la grille d'été est apparente. Donc toutes les émissions que vous voyez ici, précédées du chiffre 2005, tout ça, c'est des émissions qui en fait étaient cachées, non accessibles, en quelque sorte en vacances pour l'été, que j'ai remis en ligne hier soir. Donc les fichiers sont, ne sont pas écoutables actuellement, puisque en vacances, ainsi que leurs producteurs, leurs auteurs et leurs invités. Donc les émissions actuelles, ce serait par exemple les conférences de Michel Onfray qu'on a captées toute l'année et que l'on va qu'on diffuse en ce moment. Je crois qu'elles soient peut-être pas forcément toutes à caractère littéraire non plus. Alors outre ces émissions d'actualité éditoriale, on aura sur France Culture, tu peux revenir faire un précédent peut-être pour revenir sur la liste des émissions de littérature, des émissions qui seront plutôt centrées sur des entretiens avec des auteurs, des entretiens avec des auteurs vivants ou disparus, puisque évidemment nos émissions se déroulant en direct, un grand nombre d'entre elles consistent à inviter des auteurs à les faire parler de leur travail d'écriture ou de leur dernier ouvrage. Et puis d'autres, à travers une émission qui s'intitule Mémorable, sera consacrée à des diffusions d'entretiens d'archives parfois très anciennes, que donc on va récupérer auprès de l'Institut National de l'Audiovisuel pour les rediffuser et leur redonner vie. C'est bien le travail que j'évoquais dans mon propos introductif de patrimonialisation, de redécouverte de ce patrimoine littéraire grâce donc à la radio, en allant plonger dans ce patrimoine radiophonique de certains de ces trésors qui se trouvent archivés à l'INA. Alors des entretiens avec des auteurs, ce serait par exemple pour une des émissions qui actuellement reste quand même écoutable, ce serait Fort intérieur, qui fait l'objet de rediffusion pendant notre grille d'été. Fort intérieur, on devrait arriver à le trouver ici. Non, on peut peut-être aller faire un tour. Alors c'est une émission qui le plus souvent invite des écrivains, mais également des artistes, des photographes, des peintres. Mais enfin là, on a la chance de... Donc, oui, on peut écouter un instant, puisque l'essentiel de la ressource dans le site internet de France Culture, c'est bien sûr l'écoute. Contrairement à la plupart des sites qui nous ont été montrés jusqu'à présent, dont la ressource est d'abord textuelle et véritablement littéraire, là ce sera d'abord du son à écouter, puisque c'est quand même avant tout un site de radio. Ça charge, c'est ça? Bon. Comme toujours, des périodes d'attente sur Internet.
J'ai bien compris, cette rencontre avec les malades de votre père semble avoir été déterminante dans votre vie, bien que vous ayez perdu votre père à l'âge de 4 ans. C'est vrai, mais j'ai vécu dans cet hôpital psychiatrique qu'on appelait à l'époque Asile d'Aliénés, jusqu'à la mort de mon père, mais aussi bien après, parce que j'ai encore passé dans toute mon adolescence, donc pratiquement dans des maisons appartenant à cet hôpital psychiatrique, et on est en contact constant avec des malades mentaux qui étaient servaient de domestiques à ma mère et de
pas forcément vous proposer une heure de parenthèse pour écouter, ça peut faire l'objet d'écoutes individuelles, puisque le principe même de cette radio sur Internet, c'est l'écoute à la carte, autrement dit, à l'heure qui convient à chacun, l'auditeur n'étant pas forcément disponible à l'heure de la diffusion, donc le principe étant de l'écoute individuelle au moment choisi. Donc à part des entretiens avec les auteurs, la deuxième catégorie d'émissions à caractère littéraire possible sur Internet, ce sont un autre type d'émissions que j'ai appelées des objets radiophoniques à caractère littéraire, c'est-à-dire des émissions qui sont d'abord des objets radiophoniques, des créations dont l'inspiration et la construction sera à caractère littéraire. Par exemple, l'émission annuelle qui s'appelle Carnet Nomade, que fait Colette Fellous, qui n'est généralement pas indexé en univers littérature, mais en univers évasion, puisqu'il s'agit plutôt de promenades ou d'invitations au voyage à travers des expériences littéraires. Donc dans cette émission sont conviés ou enregistrés au préalable un certain nombre d'écrivains, poètes, enfin des gens d'expression écrite, qui sont invités à évoquer un lieu, à évoquer un voyage qu'ils ont fait ou bien un voyage fantasmé, des extraits de leurs œuvres étant lus, mais aussi des propos leur étant demandés sur ces expériences de déplacement, je dirais plus généralement de dépaysement. Une autre émission du même type sera celle que fait hebdomadairement Gilles Lapouge, intitulée « En étrange pays », qui a comme concept principal la littérature de voyage. Donc beaucoup d'ouvrages sur la flibuste, la découverte, l'exploration, mais non pas des ouvrages documentaires, véritablement des ouvrages littéraires, mais dont le propos est de l'ordre du voyage. Bon, c'est pour ça qu'à l'intérieur du site de France Culture, c'est classé dans une catégorie que nous avons intitulée l'évasion, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir trait à la géographie littéraire ou à la promenade littéraire, je dirais. D'autres émissions du même type, objet radiophonique à caractère littéraire, n'étant ni de l'entretien avec de l'auteur ni de l'analyse d'une œuvre, par exemple Une vie, une œuvre, une émission du week-end, le dimanche soir, qui n'est pas en ligne l'été, mais que j'ai dû remettre en univers littérature, me semble-t-il, ça doit être tout à la fin de l'univers littérature, qui le plus souvent s'intéresse à des auteurs de littérature, mais aussi à des plasticiens ou des photographes, des poètes. Là, Paracels, quand même. Oui, depuis quelques temps. Et donc, quatrième catégorie d'émissions à caractère littéraire, ce sont donc les fictions. Donc, dans le cadre de cette mission, France Culture a de soutenir la création littéraire contemporaine ou bien même de la favoriser par le biais de la commande. Donc, ce sera tout en haut dans l'univers création radiophonique. La fiction qui fait l'objet de 5 émissions hebdomadaires. D'une part, un feuilleton quotidien qui peut être donc de l'adaptation pour la radio de textes, bien sûr, déjà publiés, plus ou moins anciens. Une émission consacrée au jeune public, diffusée le mercredi après-midi, qui s'intitule « Histoire d'écoute ». Un cycle du dimanche consacré au théâtre européen ou au théâtre francophone, plutôt généralement européen. Donc des cycles mensuels, donc 4 dimanches de suite consacrés à la diffusion de captations sonores de représentations théâtrales ou bien de représentations ou de lectures plus exactement qui se déroulent à Radio France, parfois en public donc avec une scénographie minimale, parfois uniquement en studio donc avec uniquement des lectures jouées et mises en ondes par nos réalisateurs. Ensuite, une émission qu'on intitule « Perspectives contemporaines », donc là, bien sûr, exclusivement consacrée à l'écriture dramatique contemporaine. Et enfin, une fiction dite « de mauvais genre », qui étant uniquement consacrée au genre donc du fantastique, du policier, voire de la bande dessinée. Mais là, pas forcément en fiction, encore que par le bruitage, un certain nombre d'œuvres initialement en bande dessinée peuvent être aussi portées à la radio. Donc, pas vous ennuyer avec cette énumération importante, mais simplement pour vous dire que sur l'ensemble des émissions que toute l'année France Culture produit, qui sont donc dans l'année qui vient de s'écouler, hein, 2004-2005, nous avions sur l'antenne 88 émissions différentes. J'ai calculé que 24 émissions étaient à caractère littéraire, donc c'est clairement un bon quart de la production de France Culture, tout champ disciplinaire confondu. Tiens, pourquoi on a une... D'accord. Un bon quart des émissions de France Culture qui sont véritablement des contributions à ce domaine de la littérature francophone sur la radio. Mais il se trouve que depuis déjà une petite vingtaine d'années, des associations d'auditeurs se sont constituées, ayant comme premier objectif l'échange de cassettes. Donc un souci de conservation, un souci de réécoute, un besoin de bibliothèque sonore, je ne l'appellerai pas autrement. Et lorsque Internet est arrivé en France, lorsque les médias se sont pris conscience de la nécessité de transposer leur production, qu'elle soit de presse écrite ou de radio, voire de télévision, sur son nouveau support, évidemment, il est apparu indispensable de créer un site internet pour France Culture, comme pour l'ensemble de Radio France. Donc ces associations d'auditeurs, finalement, ont été peut-être d'une certaine façon le déclencheur de ce besoin, de cette bourse d'échange, sachant qu'il s'est toujours agi, bien sûr, de copies privées, à usage privé, de façon extrêmement artisanale, et que non. D'aucune façon, il n'était possible de produire des auditions publiques à partir de ces cassettes. La surveillance étant nulle, évidemment, rien n'empêche de le faire, y compris à usage pédagogique, bien sûr. Donc, depuis 1996, si mes renseignements sont exacts, on peut écouter France Culture sur Internet en direct. Ça s'est fait au départ par le biais d'un site américain, je crois, qui s'appelle FranceLink, qui permettait d'écouter en direct France Culture sur Internet à travers le monde. Et puis, en 1999, Radio France s'est quand même mis à créer son propre département multimédia et à démarrer plus ou moins des sites pour ses différentes chaînes de radio. Alors, pour France Culture, il y a eu une ébauche dès 1999 avec une demi-douzaine d'émissions qui étaient proposées en écoute à la carte. Mais c'est véritablement en janvier 2001 que France Culture a été dotée d'un site à part entière, donc lancé en mars 2001. Voilà, c'est donc moi, personnellement, depuis le mois de mars 2001, que j'ai un peu conçu, créé, non pas fabriqué, parce que sur le plan informatique, je suis à peu près ignorante, moins maintenant, mais je l'étais en tout cas totalement. Donc j'ai monté, développé, et que je continue d'animer ce site internet, étant moi-même issue de France Culture, plus généralement de Radio France et puis petit à petit de France Culture, puisque j'ai navigué personnellement de France Inter à France Culture à France Info, enfin, comme journaliste, ma connivence et mon goût allant très nettement plus à France Culture, j'y suis depuis de nombreuses années maintenant, et j'ai donc abandonné mes fonctions d'antenne pour me consacrer au site internet. Ceci non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous indiquer que ce site est véritablement le fruit de l'antenne. Il ne s'agit pas d'une fabrication adossée ou accolée, mais véritablement issue des émissions de France Culture, de ses concepteurs et de ses producteurs. Alors, il a fallu en gros 2 ans pour arriver à ce que l'ensemble des émissions de France Culture puissent avoir leur transposition au minimum sonore sur Internet, et ce minimum étant extrêmement insatisfaisant puisque l'écran appelle l'écrit. il fallait évidemment imaginer un contenu de texte, voire l'exiger de ceux qui font la radio pour vous l'offrir sur vos écrans. Parce qu'un simple écran, quand bien même cramoisi, avec quelques images proposant un haut-parleur pour écouter, ça me paraissait très insuffisant, voire démoralisant, et puis facteur de zapping, tout simplement. Il était nécessaire d'enseigner à des professionnels de la radio une nouvelle manière de s'exprimer ou de penser leurs émissions pour en proposer une version écrite, au minimum introductive, mais à mon sens le plus possible documentaire, autrement dit apporter des données associées aux émissions. Ce qui nous a donc conduit à bâtir, donc je le disais en 2 ans, et puis c'est constamment en transformation puisque la grille de France Culture n'est pas figée, que chaque année, voire plusieurs fois par an, elle change, donc bâtir des sites d'émissions. Des sites d'émissions qui donc sont arrivés au nombre de 88 à 92 par an, hein, selon la nature de la grille, qui permettent donc d'écouter les émissions, chacun à son heure. Alors, par exemple, à Londres, une émission qui soit vraiment bien tenue. Non, on n'était pas peut-être pas. Pas dans Tout arrive, à mon avis, c'est quand même un des mieux tenus. Donc, il faut descendre dans Tout arrive. Tout arrive en essayant d'aller dans les archives sur une des émissions plutôt à caractère littéraire. Alors, il est nécessaire pour qu'une émission soit écoutable à la carte qu'elle dispose de son site d'émission. Ça a été, pour l'anecdote, l'une des. La raison de ma rencontre avec Patrick Rébollard, qui évoquait tout à l'heure les difficultés qu'il avait à s'adresser aux institutions pour obtenir réponse. Il se trouve qu'un jour, Patrick Rébollard a adressé un mail, puis 2, puis 15, puis une vingtaine à France Culture. En tout cas, il agacé sans doute de l'absence de réponse, parce que c'est pas souvent le cas dans les institutions un peu de grande dimension, où les destinataires ne sont pas très facilement identifiables. Un beau jour, donc, je reçois un mail signé d'un certain professeur de français au Japon. Un mail sur le ton de la mise en demeure, tout de même. Comment France Culture est sur Internet? Or, il n'y a que quelques pauvres émissions qui soient véritablement écoutables à la carte. Pourquoi l'émission d'Alain Weinstein? Pourquoi l'émission de Pascal Casanova? Donc, les mardis littéraires, à l'époque les jeudis littéraires, ou du jour au lendemain, n'est pas écoutable sur Internet. Comment se fait-ce? C'est intolérable, vous êtes un service public, etc. Et donc, il y a une certaine acidité quand même dans le mail, je dois dire, assez combinatoire. Alors, est-ce la manière dont on s'adresse aux institutions? Je ne sais pas. Le fait est qu'au bout d'un moment, plusieurs mails, en fait, la copie du même étant envoyée aux relations auditeurs, au PDG de Radio France, à la directrice de France Culture, tous ces mails n'ayant pas de réponse, en réalité, tous m'étaient reroutés. Donc j'ai finalement été destinataire de 10 fois le même mail signé Patrick Rébollard, et là je me suis dit bon, il faut que je fasse quelque chose. J'ai donc répondu, et sur un ton un peu acide également, sachant que le site internet de France Culture à l'époque, nous étions donc peut-être déjà en 2002, c'était moi toute seule, le site. Donc avec une mise en ligne à effectuer pour la totalité de l'antenne de France Culture, n'étant pas spécialement habile au HTML, encore moins tous les autres langages informatiques, donc appuyé sur une équipe de développeurs assez mince, puisque 5 développeurs pour tout Radio France et tous ces sites, c'est pas beaucoup. Donc j'ai répondu que les choses allaient être faites, que j'ai un peu expliqué la pénurie dans laquelle nous nous trouvions, parce que c'est pas parce qu'on est institution qu'on est pour autant une filiale multimédia gigantesque. Donc, petit à petit, les émissions se sont faites. Et des relations se sont tissées entre les internautes pleins d'appétit pour ce site et puis ce que l'on pouvait petit à petit leur offrir. Donc cette transposition sur Internet, je le disais, a petit à petit été faite avec donc une nécessité, vu la pénurie en personnel, d'obliger, de séduire, mais petit à petit d'obliger les équipes de radio à faire de l'Internet, puisqu'étant seul, puis petit, ensuite nous avons été 2, donc nous sommes toujours 2, pour diriger, animer le site de France Culture. Donc, dans la nécessité absolue de nous appuyer sur les équipes des émissions. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que ce sont donc les gens de radio qui font leur site d'émission. Donc, allons voir, par exemple, allons voir peut-être l'hommage à Claude Simon. C'est une des dernières émissions qui soit véritablement à caractère littéraire que nous avons faite dans cette émission. Donc, Tout arrive, l'émission quotidienne de la mi-journée de France Culture, qui est donc aussi la plus réactive lorsque un décès peut intervenir. Et donc, je pense que ça a été, sinon dans la journée même, au minimum peut-être le lendemain. Une fois que le décès a été annoncé un vendredi, donc ça doit être l'émission du lundi, le 11 juillet, qui a été montée, donc avec sans doute comme invité Marianne Alphand. En tout cas, un grand nombre d'archives de Michel Butor qui ont été récupérées donc à l'INA pendant le week-end, etc. Et donc, une personne de l'équipe de l'émission est chargée quotidiennement de la mise à jour de ce site d'émission. Et nous avons exigé des équipes d'émission que quotidiennement ou hebdomadairement, selon la périodicité de l'émission, la mise à jour du site soit ainsi faite pour que l'écoute à la carte devienne possible. Donc il n'y a d'écoute à la carte possible que si quelqu'un dans l'émission s'implique, que si le producteur se sent aussi suffisamment concerné pour impliquer un membre de son équipe pour tenir à jour ce site d'émission. Ça signifie qu'au sein d'une radio comme France Culture, ça a été aussi une sorte de révolution culturelle que de pouvoir proposer pour chacune des émissions, bien sûr, une version, non pas une version écrite, parce que en aucun cas il n'est envisageable de faire une transcription de l'émission. Ça, les personnes intéressées peuvent, pendant le temps permis de la réécoute, éventuellement enregistrer, conserver et procéder à cette transcription ou à des passages pour un usage personnel, pédagogique ou autre. Le caractère donc véritablement de multimédia apporté à cette transposition sur Internet, ça a bien sûr été les données associées. Et donc ça a été le fait d'apprendre au personnel des émissions à constituer des bibliographies, à essayer de les rendre accessibles à un grand public. J'insiste bien, il ne s'agit pas du tout de bibliographies à caractère universitaire. Il ne s'agit pas de listes exhaustives d'ouvrages, mais bien plus d'indications à des auditeurs de grand public, puisque l'auditoire de France Culture, même si vous en faites, je crois, tous partie, est quand même d'abord fait d'autodidactes et de gens pour qui France Culture est une espèce d'université populaire. La majorité des auditeurs de France Culture ne sont pas forcément très diplômés. Donc, l'outil que moi j'ai pensé utile de leur proposer à titre bibliographique, c'est bien plutôt une brève sélection d'ouvrages assortis tous de notices leur indiquant la nature de l'ouvrage qui peut leur être proposé. Donc parfois il s'agit des quatrièmes de couverture des éditeurs, parfois des résumés dont on peut s'inspirer sur Electre, parfois des résumés que font eux-mêmes les personnels dans les émissions qui sont chargés de ce travail, ou d'autres fois encore certaines de nos bibliothécaires, puisque à Radio France on a la chance d'avoir des services de documentation et de bibliothèque. Mais c'est donc quelque chose d'assez hétéroclite, sinon hétérogène, dans la nature des notices indiquées, parce qu'on n'a pas les moyens de standardiser tout cela. Chacune des références et chacune des notices faisant l'objet d'une validation par moi ou ma collaboratrice. Sur 88 émissions, les bibliographies quotidiennes étant produites étant considérables, je ne doute pas qu'il y ait des validations parfois rapides. Et donc, un caractère peut-être un petit peu fourre-tout de ces notices bibliographiques. Je prends cette précaution parce que vous êtes tous quand même à peu près, oui, je pense tous, des professionnels de la bibliographie. Par conséquent, ça peut être sujet à critique. Mais j'insiste sur le fait que c'est destiné aussi à un autre public que celui que vous constituez. Donc, bibliographie d'une part, mais également webbiographie. Autrement dit, sélection de sites internet qui vraiment nous ont... sur Imre Kertész, par exemple, on peut aller... Là, parce que j'espère que là, il doit y avoir un lien vers un dossier spécial qu'on avait fait sur Imre Kertész. Descends peut-être dans les liens. Et non, malheureusement, il n'y est pas.
Non, il y a quand même un
lien. Parce que je sais qu'on avait fait un dossier spécial. Oui, donc il y a des liens qui, à chaque fois, nous paraissent pertinents. Ça veut dire que sur ce genre de travail, là, on s'appuie non pas sur les équipes de production des émissions, mais sur les équipes des documentalistes de Radio France. qui depuis 2 ans ont constitué une sorte de cellule spécifique de recherche sur Internet. Et non pas de recherche dans les agendas bibliographiques ou de recherche en bibliothèque, vraiment des documentalistes spécialisés dans la recherche sur Internet, ce qui nous permet de faire le débroussaillage dont nous avons eu la démonstration tout à l'heure, donc un débroussaillage Google qui bien souvent aboutit à des milliards de résultats impertinents, voire encombrants, enfin ce brouillage total. Et donc elles nous font toute cette sélection dans laquelle nous choisissons ce qui nous paraît le plus en relation avec la ligne éditoriale de France Culture et plus particulièrement des émissions qui auront abordé le sujet de telle œuvre ou de tel auteur, de tel ou tel entretien. L'ensemble de ces sites d'émission, de ces bibliographies et de cette webbiographie m'a conduit à penser que nous avions là le matériau de base pour constituer des dossiers thématiques. Puisque le site de France Culture, bien sûr, devenait très facile à comprendre et à naviguer pour des auditeurs habitués de France Culture, pouvant se repérer à travers les émissions qu'ils connaissent. Une émission qu'on connaît, on va la chercher, on va l'écouter, on consulte sa bibliographie, etc. Mais on est déjà auditeur. Le but de ce site, à mon sens, c'est de faire connaître France Culture et à travers France Culture, la culture française, la littérature française francophone, à des internautes de passage. Donc proposer un autre type de navigation, merci, qui serait une navigation par champ disciplinaire. Puisque on est soucieux d'établir de très nombreux liens avec précisément les sites internet qui seront spécialisés sur Lévinas, là celui qu'on a en premier, mais sur Kertész, sur tel ou tel auteur, Claudel, à propos duquel nous avons une semaine thématique en début de mois, sur Claude Simon que vous avez vu à l'instant. Donc tous ces liens font que nous sommes pas mal référencés, que nous favorisons le référencement d'autres sites. Et donc toute cette base nous permet de constituer ces dossiers. Allons par exemple sur un dossier. Il y avait un dossier dans le dossier Albert Camus. Peut-être qu'on peut aller le retrouver. Je ne sais pas s'il est tout en bas ou bien en allant. Non, alors remonte dans la page, il faut aller dans l'univers littérature.
Le dossier n'est pas dans les dossiers.
Non. Si, parce que là, sur cette première page du dossier, univers, clique là-dessus, et donc littérature. Mmh. Et donc, dans les dossiers, d'accord, ici, dossier, tous les dossiers. Donc au fur et à mesure de la politique éditoriale de France Culture et ses choix de mise en avant de tel ou tel auteur, et je trouve là, moi, le moyen de conserver un certain nombre d'émissions à travers ces dossiers. France Culture avait choisi, par exemple, en 2002, de faire une semaine spéciale autour d'Albert Camus. Ce qui pour moi était l'aubaine pour pouvoir disposer dans un moment resserré d'un grand nombre d'émissions consacrées à Albert Camus, également un certain nombre d'émissions faites pour l'occasion, mais des émissions exhumées de l'INA, des entretiens anciens par exemple, qui n'avaient plus été diffusés depuis très longtemps. À l'occasion de cette exhumation et de cette rediffusion sur l'antenne, j'ai pu conserver ces émissions à travers ce dossier. Donc, dans la page émission du dossier, on peut continuer d'écouter ces émissions de façon pérenne. Contrairement à ce qui se passe dans les émissions, une par une, où on ne conserve pas les fichiers son pendant une durée très longue, qui d'ordinaire est de l'ordre de la semaine ou du mois, mais rarement plus. En revanche, dans ces dossiers thématiques, on peut continuer d'écouter très durablement ces émissions. Et c'est dans ces dossiers thématiques également que l'on va avoir des listes de liens qui vont être donc là le fruit d'une recherche assez approfondie pour proposer à l'étudiant, à l'auditeur moyen de France Culture, d'approfondir un sujet qui aura éveillé sa curiosité simplement par l'écoute d'une des émissions de la radio, Et cet auditeur se disant, je découvre Albert Camus à cette occasion, je veux le lire, donc des conseils bibliographiques, je veux naviguer sur Internet parce que c'est plutôt ma pratique de découverte d'un auteur. Là, les liens qui seront proposés, ce ne sera pas Google, ce sera vraiment un ensemble de liens particulièrement pointus. On peut peut-être aller jeter un coup d'œil sur, ces, sur les liens du dossier Camus. On pourrait le faire sur un grand nombre d'autres dossiers que nous avons mis au point. Donc, si vous voulez, par rapport à l'antenne de France Culture, c'est, je crois, là, véritablement l'apport à l'Internet littéraire francophone à travers ces dossiers auteurs, puisque là, c'est vraiment le fruit d'un travail multimédia, de décryptage de ce que l'ensemble du réseau Internet peut proposer comme ressources autour de ce type de sujet, que nous avons en quelque sorte débroussaillé et labellisé au nom de France Culture comme étant, comment dire, parent.
Pour une fois, là.
Pas pour une fois. C'est récurrent dans un certain nombre de nos dossiers, comme même Hubert de Falaise, hein, je crois, sur la route des Flandres. Vous savez que le lien est fait. Mais parfois, des sites perso dont on a lu dans le détail la ressource pour en apprécier la qualité. Donc le choix étant, polyphonique. Les documentalistes qui font cette première recherche, des discussions que je peux avoir avec les producteurs des émissions, parce que c'est aussi des ressources que je leur propose pour appuyer la construction de leurs émissions. L'émission est conçue à partir de recherches bibliographiques, bien sûr, mais de plus en plus à partir de recherches sur le web. Donc ce travail est aussi préalable aux émissions parce qu'il sert à leur construction, à la recherche d'invités ou de spécialistes compétents qui ne sont pas forcément les plus parisiens, alors que bien souvent les invités à France Culture sont peut-être ceux-là. On va aller en chercher par le web, pourquoi pas, à l'Académie d'Orléans, parce que les pages ont été probantes et convaincantes. Donc il y a comment dire un aller-retour entre la chaîne de Radio France Culture et son site pour essayer de tisser une sorte de réciprocité de la ressource. La ressource sonore vient naturellement au site et la ressource internet peut nourrir la radio également. Et puis ensuite, l'ensemble se retrouve réuni à travers ces dossiers auteurs. Donc, ces dossiers auteurs existants, les ressources bibliographiques, internet, les ressources émissions existantes, tout ça m'a conduit, parce que ça existe dans le littéraire, mais également dans tous les autres champs disciplinaires couverts par la chaîne de France Culture, ça m'a conduit à bâtir encore une autre forme de navigation, qui est la navigation donc par univers, tu peux juste cliquer là, qui vous a été montré brièvement. Donc, les émissions, les dossiers, mais aussi donc les univers. Et là, on va rester dans l'univers littérature puisque c'est celui qui nous intéresse. Mais si on est plus philosophe, on ira plus dans l'univers idées où là seront concentrées évidemment les émissions consacrées à la philosophie, à la psychanalyse, à la sociologie, aux sciences humaines au sens large, dirons-nous, ainsi que ce que nous avons appelé par exemple la médiathèque, c'est-à-dire l'ensemble des fiches livres qui sont établies par les émissions, qui vont donc se retrouver dans les pages des émissions, qui vont se retrouver dans les pages des dossiers, puisque ça permet de les récupérer, puisqu'évidemment tout ça nourrit des bases de données. Donc la médiathèque, elle peut être consultée d'une façon totalement globale, transdisciplinaire, à travers la navigation de gauche du site de France Culture, mais également, quand on est dans l'univers littérature, la médiathèque que l'on consultera sera seulement celle de nature littéraire. Chaque fiche de livre, finalement, au moment où on l'indexe dans la base de données, est taguée à quel univers appartient-elle pour pouvoir être uniquement... Alors, si on va dans toute la médiathèque littérature, ici, si tu peux cliquer là, on va avoir, je pense, les 10 derniers ouvrages qui ont été validés comme faisant partie de l'univers littérature. Et ensuite, on aura au-dessus, de toute façon, un moteur de recherche qui permettra de faire une recherche sur les noms d'auteurs ou les titres d'ouvrages, sachant que ce moteur est quand même un peu chatouilleux sur les accentuations. Donc, il faut tester. avec accent aigu, sans accent aigu, avec accent grave, sans accent grave, parce que la saisie effectuée par les différentes personnes à France Culture n'est pas forcément ultra rigoureuse, et la validation, malgré nos relectures forcément attentives, peuvent aussi laisser passer deux modes de saisie. Donc on pourra avoir évidemment un auteur avec accent, le même auteur sans accent, donc doublement saisi. Ça peut arriver, puisque ça n'est pas totalement scientifique, mais strictement manuel. Oui, aussi, Charles de Plasty, donc il y a des questions hier. Donc, cette organisation en univers me permet d'être une manière, sinon idéale, en tout cas facilitée, pour un public tel que vous, étant plutôt la curiosité littéraire. Donc je vous inviterai à visiter aussi bien l'univers idée et l'univers évasion, puisque là aussi vous pouvez retrouver des émissions à caractère littéraire. Et puis la fiction. La fiction dont je faisais mention au début, qui est donc une part très importante de l'activité transculture, de favoriser la création littéraire, de l'encourager, de la diffuser. Et donc c'est à travers le portail littérature quand même que là on va accéder à travers le portail création radiophonique, pardon, je vois que Patrick connaît mieux que moi le site de France Culture. Ça c'est une initiative récente que d'ouvrir un portail par lequel on accède, donc en cliquant simplement sur cette image. Pour mieux mettre en valeur ce travail de commande ou d'adaptation de la littérature à travers la découverte, à travers la radio. On se rencontre, je pense que ceux qui sont enseignants, peut-être dans le secondaire, savent combien il est facile d'intéresser un certain nombre de gens à la littérature simplement en lisant des histoires. Et bien souvent, c'est comme ça qu'on aime, qu'on vient à lire, c'est parce qu'on a entendu des histoires. Et je crois, parce que moi, depuis ma jeune adolescence, j'écoute France Culture et ses fictions, parce que j'ai découvert un certain nombre d'auteurs en écoutant leurs adaptations, parce que j'ai découvert Gracq en écoutant l'adaptation du Château d'Argol. Je reste convaincue que c'est aussi en écoutant des œuvres à la radio qu'on peut arriver aux auteurs. Et à cause de ça, j'ai pensé indispensable de mieux mettre en valeur cette ressource de France Culture qui est donc la fiction. Alors ce portail de la fiction permet d'en découvrir les émissions à travers donc un calendrier, mais aussi une liste des émissions. Le calendrier, c'était pour présenter un peu France Culture comme finalement une espèce de salle de spectacle virtuelle, puisque ça donne les rendez-vous. Nous revoilà. Donc c'est en étant abonné moi-même à un certain nombre de programmes de théâtre ou d'opéra, et donc j'ai la saison annuelle qui m'arrive dans ma boîte aux lettres, il me paraissait indispensable de proposer la saison de France Culture en matière de fiction de la même façon. Donc bon, sur septembre on a peut-être déjà un certain nombre de choses annoncées. C'est qu'on va avoir une adaptation de ce roman de Leslie Kaplan, adaptation qu'elle-même a fait, du psychanalyste, en relation avec le réalisateur. Donc ça, c'est le premier feuilleton annoncé de la grille de rentrée. Et un des grands feuilletons que nous avons eu, je pense que c'était en juin, sur le mois de juin, c'était une adaptation, là on n'est pas dans le domaine francophone mais par la traduction on y arrive, c'était une adaptation du roman de Kerouac, On the Road. Donc sinon ça doit être en mai. En mai.
Et c'est,
oui, sur la route.
Dos Passos.
Oui, mais c'est à cause d'On the Road qu'on a lancé ce portail. Pas sur mai quand même.
Sur mai.
Ouais. À l'occasion de cette diffusion de Sur la route, donc une adaptation faite par Catherine de Saint-Phal, une traduction Catherine de Saint-Phal, qu'elle avait faite dans le but de la publier, qu'aucun éditeur n'a encore pris, mais c'est pas sans espoir, puisque ce sera peut-être dans le domaine public bientôt. À cette occasion, la diffusion s'étalant sur quand même près d'un mois, ça nous a donné le prétexte à proposer au public un travail de nouveau sur le site de France Culture, qu'est l'accompagnement, le dévoilement de la coulisse, de la fabrication de cette fiction. Il me semble qu'on est dans une époque où l'usager de n'importe quoi aime connaître le moteur de la chose. L'acheteur de DVD aime voir les bonus. Et je pense que l'auditeur de France Culture s'intéresse pas seulement à l'œuvre qu'il écoute, mais également à la façon dont la radio l'a fabriquée. Et donc on a imaginé le making of, très francophone terme, mais c'est... Je me suis beaucoup interrogée sur le fait de conserver ou non cette appellation. Et la coulisse ne me paraissait pas assez éclairante. Le making-of étant popularisé par le DVD, j'ai finalement conservé ce vocable pour être sûre d'être comprise. On peut en débattre.
Prendre la bande passante.
Appuie sur le making-of pour qu'on puisse accéder au précédent qui était donc.
Non, mais en low.
Ah voilà, d'accord. Attends,
il y a des gens connectés, arrêtez.
Non, attends, je voulais qu'on arrive à l'autre making of. Ça descend dans la page alors, pour qu'on aille sur le making of Kerouac. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé en mai, qu'on va poursuivre. C'est en fabrication pour le psychanalyste, par exemple, c'est-à-dire accompagner la fabrication du feuilleton radio du reportage sur la fabrication. Ça signifie. En l'occurrence pour Leslie Kaplan, s'entretenir avec l'auteur, bien sûr, pour comprendre comment, à partir d'une œuvre écrite faite pour l'édition papier, donc à partir d'un roman, comment on en fait une adaptation radio, quel est le travail intermédiaire, comment on transpose, comment on change la forme de l'écriture, comment on va extraire un certain nombre de textes du roman, comment on va le compacter, le réduire, pas le faire en anthologie comme hier le grand Cyrus il y en était question, mais en tout cas avoir l'explication de l'auteur lui-même sur la façon dont son texte peut devenir radiophonique. Je crois que c'est intéressant ne serait-ce que pour l'étude de l'œuvre ou pour la connaissance du phénomène de l'écriture d'avoir l'explication de l'auteur lui-même, aussi le point de vue du réalisateur. Tout ça sera donc disponible à travers donc des articles, des extraits sonores, des interviews, des prises de son au moment du tournage, parce qu'on peut ainsi également comprendre le travail de la mise en onde du réalisateur, du metteur en scène finalement, le réalisateur n'étant en l'occurrence rien d'autre qu'un metteur en scène et un directeur d'acteur. Tout ce travail-là, on en conserve le témoignage à travers cet ensemble de reportages, donc du making-of de la fiction. Donc ça a été fait pour Sur la route. On n'arrive toujours pas à entendre.
Si.
Là, c'est un peu faible, le son.
Je vais essayer de passer.
Et voilà, c'est un tout petit extrait sonore, celui-là, qui fait juste 30 secondes. On en trouve beaucoup plus, dans les pages suivantes. Donc, ce sera fait avec le psychanalyste à la rentrée. Un autre travail.
Je ne sais pas si ça va cliquer dans le texte ici.
Non, pas du tout. À chaque fois, il y a une icône pour écouter. C'est donc à chaque fois le son pour écouter. Donc c'est à la fois en l'occurrence Bernard Coman qui explique la raison pour laquelle on a choisi ce texte.
Une des grandes adaptations du texte du XXe siècle qu'on a donné à ce cas de
cinq minutes.
D'autre part, Jacques Kerouac est un auteur littéraire très important.
Alors, je vous renverrai aussi à une écoute individuelle ou collective, mais en tout cas, peut-être plutôt ce soir ou à un autre moment. Alors, ça peut être collectif. Pour ne pas prendre trop de temps sur l'exposé. Et le prochain making-of également qui est prévu, c'est alors à l'occasion d'une très grosse entreprise de France Culture en partenariat avec la Comédie-Française. Nous sommes en train de... Là, vraiment, c'est une commande, une initiative de France Culture d'écrire une histoire de la Comédie-Française qui va donc être en trois grandes parties. L'une sur le XVIIIe siècle, dont le travail d'écriture a été commandé à Maurice Levert. La suivante sur le XIXe et la troisième sur le XXe. Donc seule la première partie est pour l'instant écrite et est en cours de tournage. La seconde est peut-être en cours d'écriture et la troisième, je crois, pas encore commandée. Mais tout ça va être fait au cours de l'année, donc 2005-2006. Et là, de la même façon, un travail d'accompagnement sous la forme d'un reportage multimédia est en cours de fabrication. Comment Maurice Levert conçoit-il cette œuvre écrite finalement pour la radio? Comment les choix de textes insérés dans l'œuvre elle-même, puisqu'il va s'agir en gros d'un narrateur dans lequel vont être replacés un certain nombre d'extraits de pièces du répertoire correspondant à chaque époque. Donc ce sera des pièces dans la pièce, le tout produit à la radio. Et il me semblait éclairant pour le travail sur la radio, mais également pour le travail sur ce patrimoine littéraire dramatique, d'apporter cet éclairage supplémentaire en marge de l'œuvre elle-même qui sera écoutable à la radio. Donc là encore, un exemple de ce que le site, véritablement là, de France Culture peut apporter, il me semble, à l'internet littéraire francophone, outre la seule ressource sonore que apporte la radio. Maintenant, je ne pense pas que les apports de franceculture.com soient encore achevés à l'internet littéraire francophone. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses imaginables, dont certaines sont, dont les idées ont déjà germé et dont quelques expérimentations sont en cours. D'une part, la tentation du portail. Il me semble que France Culture, comme médias de service public, a une vocation à faire connaître tout ce qui contribue aux mêmes missions que France Culture. Autrement dit, le site de France Culture a pour vocation, à mon sens, de faire connaître d'autres sites dont la mission serait aussi d'enrichir la connaissance à partir de ressources de qualité. Donc si on va dans l'univers littérature, je vais vous montrer juste un exemple qui est tout à fait expérimental en ce moment, que j'ai à vrai dire simplement remis en ligne hier soir pour vous en faire la démonstration. C'est dans cet univers, dont vous avez pu constater que ici par exemple, la dernière émission diffusée, dessous l'accès aux autres émissions du même univers. Bon, ici une animation d'ailleurs agrémentée de petites citations qui peuvent varier mais qui donnent un peu l'état d'esprit de France Culture égard à la littérature. Donc les événements dont France Culture est partenaire et qu'elle soutient en matière littéraire, un certain nombre d'autres événements de calendrier littéraire, leurs ressources en matière de bibliographie, les ressources internet sur lesquelles nous mettons l'accent. Donc là, il se trouve que c'est une auto-promotion, mais il n'y a pas que ça en matière de ressources littéraires. Les dossiers thématiques, je vous ai les montrés. Mais aussi, donc, ici, un espace nouveau que j'envisage d'introduire dans chacun des univers de France Culture, qui s'intitulerait donc le réseau des revues. Alors, il s'agirait d'un espace véritablement portail vers des revues littéraires en ligne. Donc l'expérimentation pour l'instant s'est faite avec remu.net, mais la partie donc revue, on devrait y arriver. Donc à partir de ce petit carré de promotion, on arrive en principe au sommaire du numéro en cours qui ensuite s'achève vers un lien vers la revue. Alors, je disais expérimentation parce que l'interface a été pour l'instant fabriquée pour que ce soit le partenaire qui entre directement ces données. Donc, c'est un système de réseau qui n'est pas ouvert. Hein. Nous choisissons parmi l'ensemble des revues en ligne qui existent sur Internet un certain nombre de revues dont France Culture se sent proche et qu'elle choisit de soutenir. À titre strictement univoque, c'est-à-dire France Culture a pour mission de faire découvrir un certain nombre de sites qu'elle pense valables. Le site de France Culture offre la possibilité à ses internautes, qui sont quand même nombreux, on est de l'ordre de un peu plus de 500 000 visites par mois, donc il me semble que ça peut profiter à toutes ces revues en ligne que de bénéficier d'une visibilité sur le site de France Culture. Donc actuellement, c'est une saisie manuelle du partenaire dans une petite zone d'accès à notre base de données. Il est évident que ce dont parlait Isabelle Aveline Zaziweb hier, c'est-à-dire les flux RSS, vont évidemment remplacer ce mode de saisie, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur Remu.net le XML auquel on pourra nous-mêmes s'abonner en quelque sorte, en tout cas aller chercher régulièrement la mise à jour, et ce se fera de façon automatique. Mais bien sûr, en accord avec le site source, et on a un certain nombre de discussions actuellement avec d'autres revues en ligne du même caractère. Donc ça, c'est donc le portail vers lequel franceculture.com peut s'orienter. Autre chose, ce sont les web radios que France Culture, depuis quelques mois, a lancées. Des web radios qui sont donc de deux natures. C'est lancé depuis le mois de décembre dernier. Ce sont des radios qui, au début, n'ont diffusé qu'en direct. Et depuis maintenant un mois pour l'une et trois mois pour l'autre, diffusent également à la carte, avec une durée d'archive de trois mois, des colloques ou des rencontres. Pas uniquement... c'est quoi ça ? Pas uniquement de nature littéraire. Une web radio intitulée « Les chemins de la connaissance », donc écoutable uniquement sur le site de France Culture, mais c'est au fond une nouvelle chaîne qui actuellement n'est diffusée que sur le net, mais pourra connaître d'autres moyens de diffusion au fur et à mesure que les technologies avanceront. Vous pouvez très bien imaginer que ce soit une radio écoutable uniquement sur le satellite. Le fait est qu'elle n'est pas sur la FM. Mais c'est quand même une radio de France Culture. C'est en fait actuellement une boucle de programme qui est faite de trois tiers. Un tiers de rediffusion d'émissions très anciennes, c'est-à-dire antérieures à 1977. Pourquoi 77 ? Parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur ces émissions-là. Un autre tiers d'émissions proposées en multidiffusion, c'est-à-dire des émissions diffusées sur l'antenne de France Culture et rediffusées sous 48 heures sur cette web radio. Pourquoi sous 48 heures ? Parce qu'au-delà, il faut payer des droits d'auteur. Et enfin, un troisième tiers, qui est, à mon avis, celle qui peut vous intéresser, et intéresser tous les organisateurs de colloques, c'est-à-dire faite de partenariats. C'est donc la partie dans cette émission, dans cette chaîne de radio qui s'appelle Hors les Murs. Elle est faite donc sur la base de partenariats avec un certain nombre d'institutions qui organisent ou abritent des colloques. À charge pour eux, pour elles, de capter, d'organiser la prise de son de bonne qualité, c'est-à-dire diffusable. Et au terme du partenariat, France Culture donc diffuse sur cette chaîne ses colloques et les rediffuse donc en archive pendant trois mois. On écoute à la carte. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas que de colloques littéraires, mais il s'agit de colloques littéraires en partie, puisqu'il s'agit de partenariats avec donc ici le Collège de France. À d'autres moments avec la Bibliothèque nationale de France, les colloques scientifiques organisés à la Cité des sciences, etc. Pour l'autre web radio qui s'appelle Les Sentiers de la Création, c'est le même principe, mais c'est exclusivement, ça a trait exclusivement à la création très contemporaine dans les domaines du théâtre, de la musique, peut-être moins de la littérature. C'est pourquoi je pense que c'est plutôt les chemins de la connaissance qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et puis enfin, le troisième point vers lequel le site de France Culture doit, à mon avis, se développer, mais là-dessus, il est vrai qu'on a beaucoup de circonspection, c'est l'interactivité. Les blogs, on est très 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 circonspect parce que nous sommes un média et que, à mon sens, il y a une antinomie de nature entre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui s'exprime à travers un média, et puis ce qui s'exprime de façon strictement individuelle à travers un blog et qui ne fait pas l'objet de décisions collectives, éditoriales. En revanche, les forums, là j'aimerais prendre simplement un exemple, parce que je pense que j'ai déjà été bien longue. Un exemple de forum qui existe déjà sur le site de France Culture, c'est celui de l'émission Les Papous dans la tête, que j'ai remis en ligne. On peut aller sur n'importe lequel. Oui, pourquoi pas les bourrinets. Les Papous dans la tête est une émission historique de France Culture qui a la chance d'exister encore, ce qui n'est pas le cas d'émissions si anciennes, bien souvent. Une émission de jeux littéraires qui réunit une équipe de professionnel de l'écriture, à laquelle aucun auditeur n'est jamais convié, sinon pour assister de temps à autre à des séances d'enregistrement public. Mais moi, étant moi-même auditrice de cette émission depuis toujours, lorsque on a bâti leur site, je leur ai proposé, contrairement à ce qui se fait à l'antenne, d'inviter les internautes à jouer à la même chose, c'est-à-dire à des jeux littéraires inspirés ou vraiment nés même des contraintes d'écriture oulipienne. Donc, la productrice de l'émission a été très emballée à cette idée, puisqu'elle connaît le succès de ces séances d'enregistrement public, où vraiment des milliers de personnes se pressent chaque fois qu'elles ont lieu. Bien sûr, toujours les mêmes. Les gens traversent la France en TGV pour aller à telle séance d'enregistrement, d'Alençon à Besançon, de Lille à Marseille. Véritablement, les mêmes auditeurs se déplacent pour aller aux séances publiques de cette émission. Et donc, ce sont encore les mêmes qu'on retrouve sur Internet. Donc, c'est très tribal, c'est assez restreint. Mais ça me semble être aussi très internautique, finalement, que ce tribalisme radiophonique. Donc, j'ai souhaité l'encourager. Et ça marche très bien. Et je pense que autour d'autres émissions littéraires, on pourrait l'imaginer. Alors, je l'ai introduit dans d'autres émissions, l'émission également un peu tribale qui est Mauvais Genre, puisque cette littérature de genre crée aussi des communautés de lecteurs qui souhaitent. Je l'ai pas remise en ligne cette fois-ci, mais le fait est que c'est un forum qui marche pas extrêmement bien. Parce que là, il n'y a pas d'équipe non plus pour le site internet, parce que le producteur ne peut pas tout faire. Et autrement dit, c'est un forum qui vivote un petit peu, les gens s'échangeant un certain nombre de recommandations de lecture ou partageant leurs appréciations sur tel ou tel bouquin. Mais c'est assez pauvre et pour l'instant pas très intéressant. Donc je pense qu'il faut le développer sur France Culture, mais de quelle manière ça, je n'ai pas encore d'idée, sinon celle qu'il faudrait déjà plus de personnel, parce que j'imagine pas une seconde qu'on puisse introduire un forum qui ne serait pas modéré. Et donc, un forum voulant dire modérateur, en gros, contrôle pour la publication, ça exige des moyens que nous n'avons pas. Enfin, franceculture.com pourrait largement plus contribuer à l'internet littéraire francophone en pouvant offrir la libre disposition de ses archives. Mais comme, à mon avis, c'est là-dessus que vos questions vont porter, je vous explique en deux mots que ça ne sera possible que lorsque la question des droits d'auteur sur Internet sera résolue en ce qui nous concerne, médias audiovisuels, et elle ne l'est pas du tout, au sens où nos auteurs d'émissions, tous les gens qui, à France Culture, font des émissions, ont un statut d'auteur. Ils ne sont pas salariés. Donc ils vivent des droits d'auteur. Vivant de droits d'auteur, ils vivent de rediffusion. Une rediffusion à la radio, donc, leur apporte un complément de revenu. Puisque ce sont les sociétés d'auteurs, en l'occurrence pour l'audiovisuel, la SCAM, qui répartit les droits d'auteur en fonction des rediffusions, qui sont pour tous les médias qui diffusent une émission qui a pu être au départ produite par un auteur France Culture, font des déclarations, tout est scrupuleusement répertorié, et donc c'est au gré de ces déclarations que se fait cette répartition financière. Or, sur Internet, il n'y a pas de déclaration de droit, et pourtant il y a une diffusion qu'on pourrait appeler permanente, qui est une diffusion en même temps individuelle, puisque chacun se connecte, ça pourrait s'apparenter à ce que dans les sociétés d'auteurs on appelle la copie privée. Et ce pourquoi il y a des déclarations, c'est-à-dire un individu, un chercheur, peut aller à l'INA faire une copie d'une émission dont il a besoin pour sa recherche. Pour ça, il va payer. Et à ce titre, l'auteur recevra un écho. Pour Internet, ça n'existe pas. Donc, la prolongation de l'écoute, de la disponibilité des émissions sur France Culture représente actuellement un manque à gagner en l'absence de cadre légal sur cette diffusion. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore en mesure d'offrir une diffusion pérenne de nos émissions et par conséquent d'en organiser l'écoute à travers des bases de données par auteur, par sujet, ce qui évidemment devrait être la première de nos missions. J'espère que ça sera possible un jour, j'espère bientôt, Depuis que j'ai monté ce site internet, on me dit que des discussions sont en cours entre l'audiovisuel public et les sociétés d'auteurs, puisqu'il n'est pas question de discuter avec uniquement la SCAM, mais qu'évidemment la SACEM, qui gère les droits d'auteur musique, est bien sûr concernée, puisque bien des émissions sont habillées musicalement, voire bien des émissions ne sont faites que de musique. Et les émissions de France Musique, par exemple, pourraient aussi constituer une bibliothèque, mais pour ça, les discussions avec la SACEM sont rudes. Voilà, je ne m'étends pas plus longtemps. Je pense que vous avez des questions en partie sur ce sujet. Donc je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup.
Quel est le type de fichier ? C'est des fichiers web, MP3 ?
Non, ce sont des fichiers... Pour l'écoute en direct, c'est uniquement Windows Media Player ou bien Ogvorbis pour les gens qui sont sous Linux. Ça a été très chaudement réclamé par les internautes adeptes de ce type de navigation, de système. Donc Ogvorbis, pour les quelques personnes qui ne sont pas... qui ne peuvent pas utiliser Windows Media Player, mais pour tout ce qui est écoute en différé, c'est Real Audio, uniquement Real Audio, et avec cette précision que l'écoute ne se fait qu'en streaming, c'est-à-dire en étant connecté. Aucune possibilité de conservation, d'appropriation du son sur son disque dur. Ma conclusion sur les droits d'auteur. Donc évidemment pas de MP3, évidemment malheureusement pas encore de podcasting, enfin aucune possibilité de garder le son au-delà du délai qui est proposé sur le site de France Culture. Un délai très variable. La règle imposée par la direction du multimédia à Radio France, c'est 24 heures pour une quotidienne, c'est une semaine pour une hebdo. À France Culture, on déroge allègrement à cette réglementation qui est quand même très stricte, parce que même des émissions quotidiennes à France Culture ne sont pas forcément d'actualité et donc, à mon sens, ont un caractère durable. Et une hebdo de la même façon, donc bien souvent, on garde des émissions sur un mois pour essayer de faire une demi-mesure, sans non plus que ça puisse être ressenti comme... En effet, un vol de droit d'auteur.
Sinon, les papous dans la tête sont diffusés par Gallimard. C'est des robes.
Oui, mais c'est une anthologie. C'est une anthologie. Les papous dans la tête ont fait l'objet récemment d'un livre sorti d'un CD-ROM, mais c'est jamais qu'un choix. C'est pas l'émission enrichie chaque semaine.
Alors, Henri Béard.
Oui, moi j'ai été très comblé par ce panorama de France Culture. Et je me demande si l'antiquineur que vous avez connu est satisfait de si vous recevez encore des mails de sa part et des critiques ou des questions combinatoires.
Non, beaucoup plus rarement, mais maintenant c'est par la liste Licor que j'en prends connaissance.
Voilà, c'est vous qui intervenez dans Licor, j'ai vu ça.
Oui, mais franceculture.com, c'est pas beaucoup de monde de toute façon. Donc d'une façon générale, si quelqu'un intervient à Cerisy, c'est moi. Si quelqu'un intervient sur Licor, c'est moi. Si quelqu'un intervient pour présenter devant nos confrères européens de la radio, nos expériences en matière de multimédia, c'est moi. Et bon, j'aimerais me démultiplier plus, c'est-à-dire être beaucoup plus secondée, bien sûr. Mais il faut savoir qu'à Radio France en général, hein, le multimédia a été introduit donc en 99 à budget constant. C'est-à-dire que la présidence de Radio France a pensé indispensable que les chaînes de Radio France soient présentes sur Internet, mais notre tutelle, qui est en gros le ministère des Finances, n'a pas pour ça changé sa subvention. Donc il n'y a pas de moyens supplémentaires, quoi.
Une petite question, Alex, vous avez parlé des sentiers de la création. Je me souviens d'avoir mis un colloque dessus.
Oui, je crois que Mélusine est partenaire, non?
Oui. On a fait une convention de partenariat, mais je ne me souviens pas de la durée de l'opération.
Je pense que le partenariat est annuel. À mon avis, il doit être reconduit plus ou moins tacitement. Chaque année. Non, c'est pour les sentiers de la création, je crois. Ouais. Et la durée de la disponibilité des colloques est de 3 mois par convention.
C'est ça, c'est en principe. Ouais.
Thomas,
Ouais, je voulais vous féliciter. Sur le site est vraiment bien. C'est peut-être des excellent en fait. Des questions techniques. Vous avez parlé de 500 000 visites par mois. Les deux questions que j'ai posées, vous pouvez répondre séparément. C'est la première, c'est est-ce qu'il y a, vous avez une idée sur la puissance des serveurs, combien de gens peuvent être en direct branchés, parce que je sais que je peux cliquer et écouter pendant 5 heures et on me coupe ça. Et la deuxième question, c'est pour par exemple le dossier Camus ou le dossier Simon ou IT ou autre, quand ça dure, quand même là vous avez repris des émissions qui restent en ligne longtemps, donc là pour Camus ou autre, est-ce que vous avez payer d'autres droits pour que ça puisse rester en vie.
J'espère que ce que je vais vous dire ne sortira pas d'ici. Parce qu'en réalité, cette initiative que je prends de pérenniser un certain nombre d'émissions pour les inclure dans des dossiers thématiques, moi, il faut aller donc en dossier littérature, univers littérature, dossier IT. Cette initiative que je prends, donc, m'est propre. C'est toujours dans cette allégalité absolue. Et par conséquent, je m'appuie sur l'amitié ou complicité ou confraternité assez ancienne que j'ai avec les producteurs d'émissions pour leur demander amicalement l'autorisation de laisser telle de leurs émissions figurer durablement dans celui-là de nos dossiers. Ça signifie que c'est pas la série entière de leurs émissions qui va rester. Par exemple, pour Haïti, il y a un certain nombre d'émissions, les matins de France Culture que j'avais conservées parce qu'ils avaient pris le parti d'inviter à plusieurs reprises des auteurs haïtiens pour parler de la situation en Haïti. Donc le parti pris de cette émission, c'est une émission d'actualité quotidienne qui parle vraiment de tous les sujets mais qui a pour parti pris d'inviter plutôt des écrivains ou des intellectuels au sens large pour aborder des questions d'actualité. Donc cette émission, les matins de France Culture, j'en ai conservé un certain nombre d'épisodes, je crois, dans le dossier Haïti, au prétexte qu'elle concernait le sujet. Le producteur de l'émission n'y voit pas d'inconvénient, mais il n'est pas question pour moi de laisser la totalité des matins de France Culture durablement en ligne. Donc en fait, je numérise à la main chacune de ces émissions pour les conserver sur le serveur de Radio France, alors que l'ensemble de nos émissions est sur un serveur extérieur chez le prestataire qui encode les émissions. Puisque ça, pour vous expliquer, sans rentrer trop dans les détails de la technique, il faut savoir que France Culture est une radio qui n'est pas numérique. France Culture est une radio totalement analogique. Par conséquent, le fait d'être sur Internet...
Vous allez vous mettre au numérique
un jour.
Il y a quelques centaines de personnes à reconvertir, quelques dizaines de studios à casser et à reconstruire. Actuellement, c'est toute la maison de la radio qui est cassée, qu'on va reconstruire, et les travaux vont durer 7 ans. Donc, les studios de France Culture, on verra plus tard. Donc, la numérisation de l'antenne de France Culture, c'est pas pour demain. Autrement dit, actuellement, l'encodage numérique de l'antenne de France Culture est fait par une société extérieure, privée, auquel nous sous-traitons cette numérisation. Donc, le flux direct à la sortie, quoi. Tout simplement sur un tuner, hein. Il y a une société privée qui a comme source son tuner, encode en numérique, en Real Audio, en Windows Media Player pour le direct et en Real Audio et fait le découpage de nos fichiers son. Un découpage dont d'ailleurs nombreux adhérents de la liste Litor se plaignent, puisque, bon là, désolé, je rentre dans la cuisine, mais je pense que je prévois un certain nombre de vos questions de cet ordre, les émissions sont souvent tronquées. La réécoute va commencer avec quelques minutes de retard et va s'interrompre malheureusement avec quelques secondes d'avance. Simplement parce que ce sous-traitant qui encode nos émissions à la sortie du flux direct a programmé une télécommande sur une horloge. Une radio rigoureuse, ordinaire, généraliste, est rythmée par des flashs d'infos toutes les heures. Ce qui oblige les émissions à être très rigoureuses sur leur temps. France Culture, c'est pas du tout ça. France Culture, c'est une radio où il y a quand même beaucoup moins d'infos, où il y a un temps de la parole qui est beaucoup plus respecté, autrement dit, un temps de l'horloge qui est moins. Et quand on dit à notre sous-traitant, cette émission commence à 13h, elle s'arrête à 14h, parce que juste derrière, à 14h, une autre émission démarre, évidemment, tout ça va être soumis au vivant. Donc, à l'improbable, à l'aléatoire, et la télécommande réglée sur horloge va buter sur le réel. Et évidemment, on va avoir des coupes radicales, autoritaires, désagréables. Donc les habitués du site de France Culture savent qu'il faut aller dans l'émission suivante pour entendre les derniers mots de l'interlocuteur d'Anna Weinstein ou d'Anna Finkielkraut.
Finkielkraut dépasse.
Mais c'est bien sûr artisanal. Hein. Je vous dévoile nos fourneaux, nos cuisines, notre office. Ce qui n'est pas forcément bon non plus de révéler combien une institution est pénurique. Mais en même temps, je crois que c'est pas plus mal d'indiquer que les fêtes de chair et de larmes. En l'occurrence, les miennes, puisque je me désespère de fournir quelque chose d'aussi approximatif.
C'était Michel, le baron.
C'était d'abord pour vous remercier pour ce site qui je trouve vraiment excellent et dont je ne sais plus me passer non plus, puisque j'ai découvert il y a 2 ans, 3 ans, enfin, après. Et c'est vrai que je me connais.
Faites-le connaître à vos élèves.
Je le fais connaître. Il n'y a pas de souci, parce qu'à chaque fois, j'essaie justement de leur faire le gaz, de leur montrer. Et puis, j'apprécie beaucoup les bibliographies, qui ne sont effectivement pas des bibliographies de spécialistes, mais c'est aussi pour ça que je les apprécie, parce qu'elles sont justement disponibles pour tout le monde. Le lien également. C'est vraiment un travail que j'apprécie énormément. Ça permet aussi de réécouter des sujets quand on n'est pas là. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément. Et je voudrais juste un petit regret. Enfin, pour moi, c'est quand même un gros regret. Alors, je sais bien que ce n'est pas vous qui en êtes responsable, mais pour moi, c'est une perte. C'est la disparition de l'émission quotidienne Politique sur Paris, qui était vraiment l'occasion de réentendre de la poésie, et parfois en langue étrangère. Je me souviens d'une série sur la poésie russe. Je ne parle pas le russe, mais c'était extrêmement intéressant justement d'entendre la musique de la poésie russe. Et moi, ça m'avait permis de faire entendre justement sur un cours sur la poésie avec les élèves premières, de leur faire comprendre que la spécificité de la poésie, c'était justement cette musique de la langue, puisque personne n'entend plus parler russe et on entendait russe. Bon, alors, je sais bien qu'il y a un poésie sur parole qui existe encore, qui est toujours là.
Oui, qui est hebdomadaire.
Mais ça n'est plus le même, ça n'est plus cette possibilité qui était de faire entendre de la poésie du temps. Donc, si cette information, cette demande pour monter, je suis ravie.
Vous savez, j'expliquais au début la difficulté qu'il y avait à construire un site d'une émission de radio, d'une chaîne de radio, dans la mesure où une chaîne de radio, ça bouge tout le temps. Une grille de programme, c'est jamais définitif. Une émission disparaît, une autre renaît, une autre naît, et parfois renaît. La disparition de cette émission n'est peut-être pas définitive. D'autres émissions de poésie peuvent voir le jour. D'autres émissions de lecture et donnant à entendre des langues originales peuvent évidemment exister. Dans la série d'émissions à caractère littéraire, alors qui n'est pas permanente, il arrive quand même assez régulièrement, je dirais au moins une fois par an, voire deux fois par an, que France Culture organise des lectures marathon. Ça, c'est bien souvent dans le cadre du partenariat ancien, traditionnel, annuel, reconduit toujours avec la Comédie Française, que nous organisons des lectures marathon donc à la Comédie Française, qui sont diffusées par exemple sur tout un dimanche, y compris la nuit. Il me semble que la dernière, c'était la Divine Comédie. C'était Rimbaud. Alors, c'était l'année précédente que la Divine Comédie a été quand même en lecture intégrale. Je pense, 24 heures, les comédiens se relayant, enfin, c'est quand même assez extraordinaire, à mon sens, qu'une radio puisse se faire ce type de production. Bon, c'était bien sûr écoutable sur Internet en direct de la même façon. On ne pouvait pas le proposer à la carte à cause de la possibilité de découper les fichiers son et puis de faire un fichier de 24 heures, c'était lourd. Mais bon, une grille de radio, c'est jamais figé. C'est totalement vivant. Et en plus, là, j'avoue que France Culture est à un moment aussi un peu charnière, puisqu'on change de direction. Laure Adler, qui était là depuis 6 ans, a souhaité se retirer pour refaire de la radio. Et on va avoir comme directeur, à partir de la fin du mois d'août, David Kessler, ancien directeur du CNC, et jusqu'à il y a peu, conseiller au programme de France Télévisions. Donc, qui arrive là fin août. Donc, je pense que la première année va être de transition, donc avec une très grande identité de grille, mais ensuite tout est modifiable. Voilà.
Non, peut-être qu'il n'y a pas d'autres questions. Pour dire que l'objet France Culture en ligne est un objet qui, du point de vue médiologique, est fascinant. Parce qu'on a à la fois une radio qui s'est transposée sur le web, et ça, c'est, tu l'as dit, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à faire. Mais on a également une radio qui parle de littérature, et faire passer, enfin j'ai écouté récemment, comme beaucoup d'entre nous sans doute, Claudel lire certaines de ses œuvres, ou enfin c'est aussi une manière, c'était rappelé à propos du Grand Cyrus, le lien entre la littérature écrite et puis toutes les traces orales que l'on peut en avoir sont quand même très intéressantes, et quand on voit qu'en plus c'est prolongé par des renvois vers des revues, par exemple, donc là c'est encore du domaine de l'écrit, cette notion même de grille qui est en train d'éclater évidemment avec le web, on se rend compte que tout ce qui a été dit hier en particulier sur ce que l'hypertextualité apportait à l'écrit, mais qu'elle déstructurait également, je pense que là la grille est déstructurée aussi, enfin la notion de grille est complètement déstructurée.
Oui, la radio devient individuelle également. Oui. Il y a une fonctionnalité sur la navigation de gauche du site de France Culture sur lequel je ne me suis pas étendue, ça s'appelle Mon France Culture, mais je ne vous conseille pas d'y aller parce que ça ne marche pas, mais ça a marché et c'était à mon avis une idée excellente. C'était le fait de pouvoir choisir sa propre grille à partir du choix des émissions. On pouvait très bien constituer une grille d'émissions à partir d'émissions exclusivement littéraires et les écouter dans l'ordre de son choix. Il y avait un système d'inscription qui faisait que chaque fois qu'on se connectait, on pouvait écouter quotidiennement ou de façon hebdomadaire les dernières émissions de ces catégories de son choix. Bon, le truc est en panne en ce moment, ça refonctionnera, et je pense que c'est un peu l'avenir du site de France Culture que de le proposer non pas sur le site mais sur des moyens d'écoute ambulants, puisque au moment où on aura la possibilité d'offrir les fichiers, y compris d'archives, des émissions en téléchargement gratuit, type ou en podcasting. Bien sûr, la radio sera sans fil, ambulante, n'importe où, n'importe quand, à partir d'une base finalement, d'une bibliothèque sonore que seront les sites de radio comme celui-ci. Et je souhaite vraiment qu'on aille vers ça.
Je vais vous poser une petite question sur les transitions. Depuis le règne de Laure Adler, il y a eu une transformation radicale. Est-ce qu'elle va durer ou est-ce qu'il y aura un changement? Parce qu'autrefois, entre les émissions, il y avait toujours un peu de musique classique. Et alors maintenant, il y a une espèce de brouhaha où il y a des petits morceaux, des mots, des phrases un peu interrompues. Il y a quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu bizarroïde. Est-ce que ça va durer?
On est en période de transition en ce moment, puisque Laure Adler, donc après 6 ans, s'en va et que David Kessler arrive seulement à la fin du mois d'août. Donc déjà, là, pendant ce mois-ci, il y a au fond que la directrice adjointe qui est au Rennes de France Culture, la directrice adjointe Florence Bloch, étant elle aussi une productrice historique de France Culture, et elle va rester directrice adjointe de France Culture auprès de David Kessler, au moins pendant la première année. Je sais que, comme Laure Adler, elle souhaite revenir à la radio, à son métier initial de fabricante d'émissions. Donc je pense que pendant toute cette première année, très peu de choses vont changer. Cette modernisation des modes de transition à partir d'autopromotion, de petites séquences mixées, de phrases prises dans la rue, j'écoute France c'est Culture, c'est toutes les cultures, quand tu ris, c'est aussi de la poésie, enfin je sais, vous connaissez certainement ces intermèdes autopromotionnels de France Culture, plus ou moins appréciés. Mais qui ont été introduits sous le règne de Laure Adler par le directeur d'antenne pour essayer de moderniser cette radio.
On a bien compris.
Dans l'esprit de conquérir un public peut-être peu acquis à la musique classique notamment. Et surtout pour essayer de jouer plutôt le direct, parce que ça va de pair avec le fait que un grand nombre d'émissions ont été sommées de se produire en direct. ce qui n'était pas le cas depuis des décades, des décennies, pardon, combien de décades, à France Culture. Beaucoup d'émissions étaient enregistrées et diffusées sous la forme de bandes au fil de la journée. Donc le fait d'obliger les producteurs à être en direct, donc à se passer l'antenne les uns les autres sans en avoir trop l'habitude, aboutissait à des choses un peu malhabiles. Et donc, parti a été pris d'introduire ces sortes de petites virgules sonores, qui en effet font débat beaucoup chez nos auditeurs. Bon, je pense que pendant la première année, ça ne changera peu. Je doute qu'on revienne à la forme ancienne. Ça, je suis même à peu près sûre. En revanche, que les modes de passage d'émission à une autre se fassent plus habilement, plus naturellement, que les producteurs soient plus habitués à prendre l'antenne en direct aussi, je pense que ça viendra. Ça ressemblera du coup plus aux radios généralistes de Radio France aussi.
Qu'est-ce qui détermine le choix des émissions dans la nuit ? Quand il arrive aux insomniates d'ouvrir à 2h ou à 3h du matin, il est arrivé un certain nombre de fois de tomber sur de vieilles émissions, des choses que j'avais dites il y a 30 ans, n'est-ce pas, qui ressortaient comme ça. Qu'est-ce qui fait ce choix?
Le choix des émissions de nuit déjà repose sur des critères un peu comme ceux que j'ai évoqués pour les web radios, c'est-à-dire des critères de coût. Par rapport à ce que nous devons en droit d'auteur. Donc les émissions anciennes ne supposent plus de versement de droit d'auteur, mais seulement des droits de tirage à l'INA. C'est-à-dire qu'on paye l'INA, mais on ne paye plus les ayants droit. Donc les émissions des années 50 ou 60 ou antérieures à 77 sont dans ce cas. Une autre partie des émissions, c'est donc des multidiffusions sous 48 heures, d'émissions donc diffusées dans la journée sur France Culture et qui sous 48 heures sont rediffusées la nuit. Voilà. Et puis une autre part, c'est les rediffusions d'émissions donc postérieures à 77, donc faisant l'objet de reversement de droits d'auteur, avec une politique mettant l'accent sur la fiction et le documentaire. Là aussi, c'est une interprétation un peu personnelle, mais je pense qu'elle est quand même en partie valide. Je pense que c'est pour veiller à la ressource des auteurs et des comédiens, et pour veiller à la ressource des documentaristes. Voilà. Parce que les documentaires en radio sont infiniment moins rémunérés qu'en télévision, par exemple, demandent largement autant de travail. Et donc la rediffusion la nuit permet un complément de revenus à ces auteurs documentaristes. Même chose pour les auteurs SACD, c'est-à-dire les auteurs de fiction pour la radio. Également, il faut savoir que les comédiens qui interviennent dans une fiction radiophonique perçoivent aussi un complément de cachet au moment de la rediffusion d'une œuvre dans laquelle ils sont intervenus. C'est économique, en grande partie. À partir de ces critères économiques, le choix est fait donc par un producteur qui va juger aussi, lui, de l'opportunité de diffuser telle émission par rapport à l'écho qu'il peut avoir dans une mouvance, dans une actualité, dans un air du temps, ou dans la relation qu'il peut avoir avec une programmation de journée de France Culture. Quand on organise des grandes semaines thématiques, imaginons plusieurs semaines thématiques sur Georges Sand cette année ou l'an dernier, avait écho également dans la nuit pour des rediffusions. Mais par exemple, un très grand feuilleton, je crois que c'est Consuelo, qui avait été adapté pour la radio dans les années 60 en un grand nombre d'épisodes avec une distribution énorme, n'a pas pu être rediffusé à cause du coût qu'il représentait. Il a été moins coûteux de refaire une fiction avec un moins grand nombre de personnages. Voilà.
Bien, merci beaucoup Anne. Je signale à tous les passionnés de France Culture, malgré ce que Anne a dit, qu'il existe un moyen d'enregistrer sur son ordinateur les émissions qui passent. J'utilise personnellement un logiciel qui s'appelle Total Recorder, dont la version pro coûte une trentaine de dollars et que j'utilise déjà depuis plus de 4 ans. Et qui permet d'enregistrer tout le son qui passe dans l'ordinateur. Donc évidemment, c'est une copie privée, hein, donc je ne fais pas un usage commercial. Comment ?
Audacity,
Oui, il y a plusieurs logiciels qui permettent de le faire. Donc c'est une solution, mais retenez bien, à titre individuel, à laquelle vous avez droit.
Mais de la même façon que à l'assortissement d'un ordinateur, on peut mettre un magnétocassette comme autrefois.
Évidemment.
Enfin, on peut toujours enregistrer une émission à partir d'une source son, que ce soit un transistor, une chaîne stéréo ou un ordinateur.
Ça, de son côté, c'est la loi, et puis d'une autre, c'est...
Non, mais l'enregistrement à titre privé n'a jamais été interdit. Ouais,
dernière question, alors.
Est-ce qu'il est prévu pour certaines émissions exceptionnelles? Je pense qu'il y a une qui n'a pas été mise en ligne, par exemple, qui est rencontre avec l'art. Est-ce qu'il est prévu des CD-ROM?
Les éditions du Seuil se sont absolument opposées à ce que je prolonge d'un jour seulement la diffusion des émissions concernant Roland Barthes.
Mais pour vous situer, là, par exemple, par Simon, faire des émissions, est-ce qu'il est envisageable, parce qu'à une époque, on pouvait acheter des cassettes.
Mais on peut, il continue d'y avoir un département Radio France qui édite un certain nombre des émissions. Mais déjà, pour pouvoir éditer une émission, il faut entièrement la déshabiller de sa musique, puisque il faudrait payer les droits d'auteur pour l'impression du disque. Donc nous, quand on fait une émission et qu'on la mixe avec des musiques qui ne seraient pas du domaine public, on paye et on déclare à la SACEM pour cette diffusion radio. Pour une édition CD, c'est encore une autre paire de manches, il faudrait payer pour l'édition CD. Donc ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'est pas éditeur. On n'est pas éditeur, on est un diffuseur. Hein, on est producteur et diffuseur, mais on n'est pas éditeur. Donc on le fait très exceptionnellement. Certaines émissions ont été ainsi totalement remixées pour une commercialisation, mais c'était plutôt des émissions d'histoire qui ont été donc remixées avec des choses qui d'ailleurs perdaient beaucoup. Enfin, l'émission perdait beaucoup de son caractère à cause de ces remixages. Des éditions, il y en a quelques-unes, mais elles sont relativement rares, et il n'y a pas véritablement de département d'édition à Radio France. Donc il y a des coéditions qui sont parfois avec les éditeurs. Par exemple, un très très gros succès d'un des derniers étés avait été Histoire de peinture par Daniel Arras. Et ça a été coédité avec les éditions de Noël, assorti d'un CD au format MP3, parce que c'était les moins chers que de faire un CD audio. Mais c'est quand même assez rare, hein, les éditions d'émissions. Comme étaient rares aussi les éditions de cassettes, c'est la même chose.
Je me souviens à une époque où il s'est trouvé à un peu, je connaissais quelqu'un,
un collègue.
Oui, la politique d'édition a connu parfois plus de stimulation, dirons-nous, de la part de la présidence de Radio France. C'est assez variable. Il y a eu des grandes séries, en effet, de grands récits, de grands entretiens qui ont été ainsi édités. Maintenant, la politique d'édition Radio France n'est pas forcément issue des émissions. Elle est beaucoup issue des auditeurs. Il y a beaucoup d'appels à contribution à des auditeurs pour qu'eux-mêmes produisent des textes qui font ensuite l'objet d'ouvrages. Bon, c'est une autre manière de voir les choses. Ça peut aussi évoluer.
Bien, on continue la discussion à l'extérieur. On déjeune à une heure.